Hubert Guillot, bonjour. Tu es journaliste indépendant, spécialiste des systèmes techniques et numériques. Tu es aussi rédacteur en chef du média dans les algorithmes.net. C'est un média aux informations très denses et très pointues pour qui veut s'intéresser au domaine. C'est incontournable. Et on va évoquer avec toi le livre que tu viens de faire paraître, qui s'appelle Les algorithmes contre la société. Le titre, on se dit quoi? Qu'est-ce qui se trame en fait? Les algorithmes, ils prennent le pouvoir. C'est quoi l'idée générale?
Oui, c'est un peu celle-ci. C'est qu'aujourd'hui, on est cerné par des systèmes techniques qui nous calculent dans tous les domaines de nos vies quotidiennes et sur lesquels les gens ont peu de prise, peu de pouvoir. Alors, ce ne sont pas des systèmes de calcul autonomes, hein, pour la plupart, ce sont bien des systèmes conçus par des ingénieurs avec des politiques, des financements. Des orientations politiques qui vont avec, et ce sont eux qui sont, ce sont eux ces algorithmes contre la société en fait. Ce sont eux qui s'en prennent en fait à certains types d'individus ou oui, à certains types d'individus.
Alors, les algorithmes, on pourrait dire, c'est carré. Les algorithmes faits par des ingénieurs, c'est des calculs, c'est des mathématiques. Voilà, tant mieux, on est au plus près de la réalité et des résultats.
Eh bien, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que cette réalité et ces résultats ne sont loin d'être optimaux, en fait. Alors, ça fonctionne la plupart du temps très très bien pour certains types de publics. Et en fait, ces systèmes de calcul vont se mettre à dysfonctionner pour certains types de calculs, certains types de publics. Et vont avoir des effets profonds, en fait, sur des tas de secteurs de la vie, en fait. Donc, ce n'est pas qu'une relation logique ou neutre ou scientifique à la technique. Dès qu'on creuse un petit peu, on se rend compte en fait que ces logiques ont des orientations politiques. C'était Cathy O'Neill dans son livre Algorithme, la bombe à retardement, qui disait que les algorithmes sont des opinions encapsulées dans du code. Et voilà, je pense qu'on a besoin de se débarrasser de la neutralité ou de la scientificité de la technique pour la réinterroger à l'aune de ce qu'elle produit sur la société.
Mais c'était comme un élan inéluctable. Je veux dire, on a constitué depuis longtemps des bases de données, que maintenant on utilise ces bases de données, ça paraît juste normal en fait.
Oui, certainement. Oui, bien sûr, c'est normal qu'on les utilise, qu'on fasse des calculs dessus. Le problème, malgré tout, c'est est-ce que ces calculs, ils sont équitables, justes pour la société, enfin, quel type de calcul est produit, par qui, pourquoi faire et comment? Je pense que c'est un enjeu qu'on peut se poser en fait. Il n'y a pas qu'une forme de normalité de ces calculs. Qu'est-ce qu'ils produisent en fait vraiment? Qu'est-ce qu'ils font aux gens? Voilà, c'est la question que j'adresse en fait.
Et ça, on ne le sait pas.
Il faut regarder un petit peu dedans pour
Alors,
regarder.
on va regarder dans les détails, parce qu'en fait, là, on pourrait se dire que les erreurs touchent une minorité, voilà, les queues de comète, comme on dit, et que le principal fonctionne. Mais dans le livre, on comprend en fait qu'il y a des défaillances assez massives quand même. Alors, tu reviens sur différents exemples, hein. On parle du scoring à la caisse d'allocation familiale, on parle du scoring avec Parcoursup, analyse de CV, France Travail, productivité des employés. Tarification algorithmique personnalisée, marketing numérique et aussi divers services des finances publiques. Je suis en train de te dire, est-ce que tu as, voilà, on peut aborder un ou deux exemples dans le détail?
Oui, bien sûr, ou on peut essayer en tout cas de voir comment ça dysfonctionne à certains endroits. Tu évoquais le fait que, en fait, c'est peut-être epsilonesque le fait qu'il y ait très peu, dans ces calculs de masse, en fait, les erreurs touchent très peu de gens. Je vais prendre deux petits exemples pour montrer que ce n'est pas le cas. Le premier, c'est Parcoursup. Ah, parce que Parcoursup, c'est la première plateforme qui touche 900 000 étudiants chaque année qui candidatent via la plateforme pour les formations supérieures. Alors quand on regarde très précisément, selon les chiffres du ministère, c'est 19 000 élèves, à peu près 2%, qui n'auraient pas satisfaction du fait
De la demande, de l'envoi.
en utilisant la plateforme. En fait, quand on continue à apprécier les chiffres, on se rend compte qu'il y a à peu près 9% en plus, donc 2 plus 9% en plus, qui ne répondent pas positivement à un choix qui leur a été fait. Ce qui veut dire en fait que ce choix qui leur a été proposé ne leur convient pas. et qui vont faire autre chose ailleurs, autrement, etc. Je pense que c'est un élément supplémentaire à prendre en considération. Après, il y a un troisième élément qu'il faut prendre en considération, c'est le nombre d'élèves qui, d'une année sur l'autre, en fait, bah, recandidatent, en fait, reveulent une autre formation. Preuve que la proposition qui leur a été faite en année 1 ne leur a pas convenu, en fait. Et ces étudiants en réorientation sont très nombreux, en fait. Au total, moi, avec mes calculs, j'estime, grosso modo, que c'est 40% des élèves qui passent dans Parcoursup qui sont mécontents de l'offre qui leur a été faite. 40% pour un système censé en fait affecter les élèves dans le supérieur le mieux possible, on voit bien que ce n'est pas un bon résultat. Et voilà un exemple qui montre que ce n'est pas epsilonesque en fait, et que c'est bien plus profond. Les défaillances de ces systèmes sont certainement plus profondes qu'on ne le pense. Je vais prendre un deuxième exemple. Qui est un peu plus compliqué, dont je ne parle pas dans le livre, mais ce n'est pas grave, c'est pour montrer que j'en ai en réserve des exemples. C'est la question du score de risque bancaire. Alors, les systèmes bancaires produisent eux aussi un score de risque, de, non pas de défaillance, c'est un score de risque sur la possibilité que votre compte serve au blanchiment d'argent, voire au narcotrafic. Il y a eu des lois récemment qui sont passées là-dessus pour que les banques fassent attention à ces enjeux-là. Donc, elles ont mis en place en fait, des systèmes de surveillance de la manière dont sont alimentés les comptes de tout un chacun, en fait, de chacun d'entre nous. Et ce dont on se rend compte, alors le chiffre est un chiffre qui vient du Royaume-Uni, mais c'est qu'en 2023, si je ne me trompe pas, il y a 170 000 personnes qui ont été débancarisées au Royaume-Uni. Donc 170 000 personnes qui, du fait de versements en fait, qui pouvaient être problématiques sur leur compte, la banque a décidé en fait, de leur couper l'accès à leur compte. Il y a un délai, etc. Mais on leur a coupé l'accès à leur compte. Or, quand on regarde le nombre de condamnations réelles pour narcotrafic ou pour blanchiment d'argent, la même année, en Grande-Bretagne, on se rend compte que, en fait, ça touche 1000 personnes. 170 000, 1000 personnes, il y a un problème, en fait. Donc, on voit, en fait, que ces systèmes ont, encore une fois, des effets massifs sur la société, qui sont mal calibrés, mal contrôlés la plupart du temps, et donc qu'il y a des difficultés qui se créent partout. Alors, ce système de calcul du risque bancaire n'est pas qu'au Royaume-Uni, hein, il est désormais partout, en France aussi, on a ce même problème. Et notamment en France, ils ciblent aussi certains types de comptes bancaires. Donc beaucoup des petits particuliers qui ont des virements réguliers. Et par exemple, ce qui a été constaté à plusieurs endroits, des associations du culte musulman, parce qu'ils reçoivent beaucoup de dons d'individus. Et donc dans ces dons, il y a un effet de suspicion qui est assez généralisé. Pourquoi, comment l'algorithme est fait pour qu'il mette en cause certains types de profils et certains types de publics. Voilà, c'est une vraie question de société qui est adressée, pour laquelle, par exemple, en France, pour l'instant, il y a encore des discussions, mais le problème n'est pas résolu.
On n'arrive pas pour autant à des scandales comme alors, tu as souligné le scandale des banques en Grande-Bretagne. Il y a aussi le scandale Robodebt en Australie qui affectait le rationnement des logements d'urgence. On n'a pas ce type de scandale en France. Donc
Oui, mais alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de scandale parce que en fait, ces calculs sont individuels. Quand vous n'êtes pas pris dans la formation que vous voulez, c'est vous qui êtes mis en cause. C'est vous qui n'avez pas bien travaillé à l'école, qui n'avez pas eu d'assez bonnes notes pour avoir la formation que vous visiez, en fait. De même, quand vous êtes débancarisé, on imagine bien que plein de gens ne vont pas aller crier sur les toits, ne vont pas comprendre que c'est un problème de calcul qui n'affecte pas qu'eux, en fait, mais des tas d'autres personnes. Et donc, la difficulté, en fait, c'est d'arriver à mobiliser les gens sur ces erreurs de calcul. Alors, un autre exemple qui montre que ce type de mobilisation est possible, c'est l'association Changer de Cap, qui est une association pour l'aide aux personnes en difficulté dans les services publics et notamment autour des allocataires de la caisse d'allocation familiale, qui en 2023 a fait un sondage auprès de ses membres pour leur dire oui, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quel type de problème vous recevez. Et ils ont eu un afflux de témoignages sur le fait que plein de gens étaient en fait en difficulté avec le numérique à la CAF parce qu'ils étaient accusés de fraude sociale. Et donc, de cet effet-là, en fait, eh ben, ils ne pouvaient plus recevoir leurs aides, ils étaient en difficulté, etc. Et l'association, en fait, a mobilisé en fait, tous ses membres. Elle a fait le travail, en fait, de mobilisation nécessaire pour mettre à jour la difficulté, montrer que c'était systémique. Et aujourd'hui, elle est en action contre la CAF. Il y a une plainte qui a été déposée au Conseil d'État pour que les algorithmes de la CAF soient plus transparents. Donc on voit en fait que quand le problème n'est pas individualisé, mais quand il est repolitisé et remobilisé par les gens, on peut arriver à avoir des actions d'envergure et à mettre en avant en fait les difficultés que ça pose.
On a compris que les algorithmes cachaient dans leur code des objectifs idéologiques, des choix moraux et politiques. Je souligne le fait conscient des politiques publiques de vraiment restreindre au maximum en fait, l'accès des ayants droit et l'impossibilité de pouvoir recourir derrière des erreurs.
Oui, au-delà du code, il y a les enjeux politiques qui sont portés par ces systèmes et par ceux qui les déploient, qui les mettent en place, qui les financent. Vous voyez bien que ces dernières années, les logiques politiques très austéritaires à l'encontre des services publics, pour payer moins, pour s'en prendre aux gens qui ne font rien ou qui dépensent trop, qui sont toujours les mêmes, ou qui sont censés être toujours les mêmes. Voilà. Il y a donc des effets politiques, des effets législatifs qui ont un impact en fait, sur les orientations du calcul. Et c'est bien effectivement des orientations politiques qui sont données à ces formes de calcul pour qu'ils aillent dans un sens plutôt qu'un autre. Bien évidemment, voilà, ce que j'essaye de montrer, c'est une forme en fait, de minimisation des services publics. Aujourd'hui, quand on développe un service numérique dans un service public, la condition de son financement, c'est de connaître le nombre d'emplois qui vont être supprimés. Alors, les services publics vont dire qu'ils vont être redistribués ailleurs. Mais en fait, ce sont bien, la motivation première, c'est la suppression d'emplois dans le service public. La motivation seconde, c'est bien en fait une forme de réduction ou de raccourcissement des droits. On le voit dans les politiques les plus récentes, par exemple, pour le droit au logement, ces dernières années, on est passé d'un droit qui était annuel. Vous demandiez un droit au logement, vous l'obteniez pour une durée d'un an, par exemple. Aujourd'hui, ce sont des droits qui sont calculés trimestriellement, voire mensuellement. Et donc, vous savez ce que vous allez recevoir le mois prochain, mais pas celui d'après.
Donc c'est ça qui te choque aussi, on le sent bien dans le bouquin et on en convient, c'est l'impact sur les trajectoires de vie. Voilà, qui se joue sur toute une population. C'est une bonne manière pour l'État donc, de se cacher derrière ces algorithmes, d'invisibiliser les violences faites à certaines catégories sociales. Alors comment on fait pour enquêter là-dessus? On comprend bien l'opacité de tous les codes. Alors comment on enquête? Comment on enquête sur les fonctionnements, sur les dysfonctionnements? Vu que les évaluations sont assez rares, même si elles sont obligatoires, quelle est la marche à suivre alors?
C'est super compliqué. C'est pas un travail que moi je fais tout seul en fait. C'est un travail qui s'appuie en fait sur le travail d'autres, donc d'associations. Je vous ai parlé de Changer de Cap tout à l'heure, qui vont faire ce travail de terrain et de militance très très forte pour faire remonter des informations. Vous avez d'autres types d'associations comme les associations de défense des libertés publiques, que peuvent être la Quadrature du Net ou l'Observatoire des algorithmes publics qui vient de se lancer récemment. Vous avez aussi des institutions publiques, de la CNIL à aux défenseurs des droits, qui documentent aussi ces effets. Vous avez des tas de chercheurs, j'en cite énormément dans le livre, parce que leur travail est fondamental, en fait. Ils nous aident à comprendre, ils ont des fois accès à ces systèmes, des journalistes, des syndicats. Enfin, c'est tout un réseau qui se met en action, en fait, pour tenter de comprendre le fonctionnement de ces systèmes, avec la difficulté, comme tu le disais, c'est que la plupart du temps, on n'a pas accès au système. Sur l'enquête qui a été réalisée sur les algorithmes de la CAF par la Quadrature du Net, le journal Le Monde et d'autres collectifs, en fait, personne n'a eu accès à la dernière version de l'algorithme, soi-disant pour des raisons, pour que les gens ne puissent pas contourner les possibilités de scoring que fait la CAF. C'est bien évidemment une raison qui n'est pas très justifiable. Pour l'instant, c'est celle qu'on reçoit et qui pose en fait des problèmes de vraiment. Enfin, normalement, un service public doit être responsable de son action. Son action doit être transparente. La loi pour la République numérique de 2016 demande à ce que les algorithmes publics soient ouverts, transparents et explicables. On voit bien qu'on est encore très très loin de ce type de disposition. Et voilà, c'est pour ça que c'est un travail multiple, commun, avec des éclairages, souvent partiels, mais sur lequel à plusieurs endroits, par exemple, je montre qu'on ne sait pas exactement. Et le fait qu'on ne sache pas exactement est en fait un problème démocratique.
Est-ce que ça veut dire que si les algorithmes étaient parfaits, s'il n'y avait pas tous ces biais, ils seraient souhaitables? Je pense juste à voilà, une vision kantienne qui est de dire que la mise à distance de l'homme permet un traitement plus équitable par atténuation des passions humaines. Ou est-ce qu'il faut s'en tenir aussi à l'analyse de Arendt ou de Ellul qui est de dire qu'une mise à distance par des dispositifs est un terreau fertile pour l'avènement de la banalité du mal. C'est un terme très fort, mais est-ce que ces outils ne sont pas déresponsabilisants? Est-ce qu'ils sont souhaitables? Ou est-ce que, quoi qu'il arrive, ils sont quand même contestables et critiquables, même s'ils étaient parfaits?
Alors, des outils parfaits, moi, je n'en ai pas vu. Donc, je pense que c'est la première indication. je pense qu'ils ont une certaine difficulté. Le monde ne rentre pas dans les cases du calcul, en fait. Il est plus divers, il est plus complexe que cela. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a plein de profils sociaux qui ne rentrent pas dans des visions très, très simples. Les gens n'ont pas tous un revenu mensuel fixe d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, etc. Pour plein de gens, ce n'est pas le cas. Et quand ce n'est pas le cas, en fait, eh ben, c'est là où ça bug. Et vous avez voilà. On pense, en fait, avec la technologie, qu'on va pouvoir fluidifier le monde, le rendre temps réel. On va pouvoir calculer en permanence et en temps réel toutes les réalités. Et on se rend compte, en fait, dès qu'on soulève un tout petit peu le capot, que c'est un fantasme, vraiment, ce calcul parfait, temps réel, omniscient des machines. Qu'il y a plein de choses qui viennent contrecarrer ceci. Juste pour prendre un exemple toujours sur la question des salaires qui vont pouvoir impacter tant les impôts que les aides de la CAF. Un salaire, voilà, si vous avez un poste fixe et stable, ok, votre salaire tous les mois c'est le même, le calcul ne bouge pas beaucoup. Mais la plupart des gens qui demandent des aides sociales, ils ont des bouts de salaire qui ne sont pas fixes d'un mois sur l'autre, voire d'une semaine sur l'autre. Ils ont des bouts d'aide aussi qui viennent en plus. Et qui s'ajoutent, se rajoutent des maladies, etc., des situations qui changent. Et donc, le calcul fixe au 30 du mois est en fait où tout serait connu et connaissable, et en fait impossible, ça n'existe pas. Vous avez plein de gens qui ont, bah, ils ont fait travailler tel mois, mais ils vont avoir le versement le mois suivant. Alors, il faut compter le premier mois où ils n'ont pas l'argent, ou le mois d'après où l'argent va être versé. Dès que vous rentrez dans ces trucs, vous vous rendez compte en fait que cette idée ou ce fantasme d'un calcul exact, précis, total, est en fait un délire totalitaire.
Le livre vise à éveiller donc à une vigilance. Hein. Tous ces enjeux sont élevés et pêchent en fait par ignorance et détachement de la plupart de la population des citoyens. Je pense juste à deux éléments. Le premier élément, c'est il y a quelques dizaines, enfin 10-15 ans, il y avait la fameuse expression de « je n'ai rien à cacher ». Alors, ASME, les bases de données, chacun se fichait des données qu'on donnait parce qu'elles étaient pour la plupart sans importance et sans impact, tout ce qui était biométrie de santé, etc., enfin les données d'achat, etc. Tout le monde se fichait un peu des applications, de ce qu'il y avait des trackers dans les applications, est-ce qu'il y avait des autorisations qui allaient au-delà des finalités de l'application. Là, je suis en train de me dire, en fait, face à l'ignorance, au détachement, après le rien à cacher, c'est rien à craindre. Tout le monde ignore que demain, il peut être sujet à être impacté dans son existence de vie, dans sa trajectoire de vie. Voilà, rien à cacher, rien à craindre. Alors, comment on s'en sort de cette reconfiguration du monde que chacun subit en l'ignorant?
C'est une bonne analogie, le rien à cacher, rien à craindre, ou le tout à cacher et tout à craindre, en fait. C'est ça, en fait, le défi qui va derrière. Comment on s'en sort? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut essayer de continuer avec encore plus de radicalité les questions d'armée, les questions de transparence, de minimisation des calculs, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment de délire, du surcalcul, où on rêve de prendre toutes les données, toutes les plus fluides possibles, pour calculer tout et n'importe quoi, au prétexte que le calcul sera plus précis, plus granulaire, plus fin, plus juste. C'est exactement le contraire qui se passe. Pour reprendre l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur l'annualisation, l'annualisation donne des droits un peu pérennes à des gens qui sont dans le besoin, de la visibilité, etc. On n'a pas besoin d'un calcul du temps présent en permanence, renouvelé sans arrêt en fait. Et donc nous devons nous redonner de la distance par rapport à ce délire de la précision et de la justification des calculs. Et l'autre levier, certainement, donc c'est déjà de le comprendre en tant que société, ce premier écueil. Et l'autre levier, certainement, pour moi, c'est aussi, c'est pas de croire qu'on va enfermer tous les calculs ou qu'on va pouvoir tous les surveiller. Je pense qu'il y en a trop, il y en a partout. C'est pas même la CNIL ou les défenseurs des droits, ils sont trop petits pour y arriver. Vous avez des calculs dans la moindre application commercial que vous utilisez sur votre smartphone, pardon. Et donc, on ne va pas pouvoir arriver. Je pense que l'autre enjeu, derrière, malgré tout, des politiques publiques qui insistent sur l'ouverture, etc., c'est aussi de limiter l'accès à certains types de données. Je pense que de ce côté-là, nous n'avons pas été assez forts et restrictifs. Aujourd'hui, on voit bien que des tas de choses se baladent dans tous les sens. Et le troisième point, pour moi, c'est de se dire, dans tous les systèmes de calcul qui ont un fort impact social, en fait, nous devons faire monter les usagers, parce que ce sont eux qui sont à même de comprendre l'impact que le calcul a sur eux, et ce sont eux, en fait, qui sont capables de dire aux services publics ou aux services privés qu'ils dysfonctionnent et de leur rappeler leurs responsabilités.
Je reprends ta très bonne formule là-dessus, c'est pas de calcul social sans accès social au calcul.
Voilà, c'est très chouette. C'est moi qui ai écrit ça.
Je crois. Hein. J'ai mis un truc entre guillemets, je pense que c'est toi. C'est ironique du coup,
non? Non,
t'as oublié?
Il me semble. Je le connais pas encore par cœur.
Mais donc adapter. Alors tu vas même plus loin. Tu parles de établir des chartes, des comités d'éthique, des conventions citoyennes au sein des structures, etc. Diminuer les données, tu l'as dit. Mais il y a quand même cet élan, en fait, des algorithmes, des IA qui s'imposent. Il y a une loi de Gabor qui est très connue, que je vais citer, que je vais énoncer. « Tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé. Que cette réalisation soit jugée normalement bonne ou condamnable. » On est pieds et mains liés, quoi, non?
Certainement un peu, mais peut-être aussi beaucoup. Parce que nous avons laissé faire sous prétexte de commodité ou sous prétexte que c'est trop compliqué, en fait, quoi. Malgré tout, la démocratie, c'est le moins pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. Donc, nous n'avons pas trop le choix, en fait, quoi. Je pense que nous avons, malgré tout, besoin du calcul à plein d'endroits de la société. Ce qu'il faut trouver, c'est lesquels, à quels endroits nous n'en voulons pas ou nous n'en avons pas besoin. Et l'autre enjeu, c'est aussi de réveiller effectivement notre mobilisation commune. Je suis assez d'accord et c'est ce qu'on voit en fait, c'est ce que déroule ce livre, c'est de montrer en fait que, quoi qu'il en soit, les calculs sont disponibles, les données sont là. Et nous sommes confrontés à des services publics, à des services privés qui se développent avec de plus en plus de données, de plus en plus de calculs, en promettant la Lune avec encore plus de données et plus de calculs. Il y a un moment où il faut se dire, quel frein, quelle limite on met. Et c'est nos enjeux de société. Hein. Nos enjeux de société sont toujours des enjeux de régulation. Et donc, il est temps de réveiller encore un peu plus la régulation que celle que nous avons jusqu'à présent.
Les intérêts de ces entreprises et de ces pouvoirs en place qui utilisent en fait à leur avantage les algorithmes et les IA peuvent faire craindre d'un autoritarisme algorithmique à venir. Alors certains parlent de vectofascisme, tu en parles dans les algorithmes du net. Est-ce que Est-ce qu'il ne faut pas laisser aller la machine, un peu comme le capitalisme que chacun attend d'un effondrement de lui-même? Est-ce que, comme disait Ellul, voilà, Ellul parlait d'un auto-accroissement indéfini du système technicien et qu'une défaillance soudaine, de toute façon, va engendrer une catastrophe technologique, voilà, à un moment ou à un autre. Donc, ça va s'effondrer de soi-même. Est-ce qu'on aura assez de temps pour contrecarrer la machine ou est-ce que, bon, faut attendre que la machine s'enraye?
Le problème, c'est que si on attend que la machine s'enraye, on risque quand même de beaucoup souffrir et certaines populations vont beaucoup souffrir. C'est-à-dire que ce fascisme technologique risque en fait de partir en roue libre, comme on le voit actuellement aux États-Unis, en fait, vraiment. J'ai l'impression ou l'espoir que nous voulons une autre société, en fait, en tout cas en Europe, ça me semble assez sûr et certain, ou je l'espère encore. Et donc, il me semble un peu porteur d'espoir, en tout cas, de nous dire que non, on doit arriver à mettre des limites à ce pouvoir, au capitalisme d'aujourd'hui, à ce pouvoir technique qui vient le renforcer. Le risque, sinon, en fait, c'est de céder tout de suite au fascisme en attendant son effondrement. Mais le fascisme ne s'effondre pas tout seul, en fait.
Est-ce qu'on peut prôner, comme Cédric Sauvia, via l'AFSIA, donc l'agence française, l'association française contre les IA, est-ce qu'il faut prôner carrément l'interdiction pour s'assurer en fait que voilà, on dit non à quelque chose qui est difficilement adaptable?
Je pense que dans certains domaines, on peut tout à fait prôner des formes d'interdiction. Je pense que sur le calcul du social, ça dysfonctionne tellement qu'il y a certains endroits où on doit prôner l'interdiction. Je prends un exemple en fait, qui est un petit peu différent, mais qui va peut-être permettre de nous aider à comprendre en fait. Dans le secteur du médicament, par exemple, on a mis en place en fait, des systèmes pour vérifier que les médicaments faisaient bien ce qu'ils devaient faire. En fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même chose sur les systèmes numériques? Ça régulerait beaucoup de systèmes qu'on nous vend avec la fabuleuse IA dont on nous parle de partout en ce moment. Et ça ferait baisser bien des ambitions, en fait. Je pense que le rapport de force n'est pas... pour ou contre, il doit être certainement un peu plus subtil et un peu plus adapté, qu'on ait peut-être un peu d'IA pour faire, encore je ne sais même pas à quoi ça sert, donc j'aurais du mal à défendre quoi que ce soit, mais enfin, il est possible qu'on puisse avoir peut-être quelques effets récréatifs quelque part qui puissent être acceptables, et encore. Mais non, enfin, on doit rester maître en fait, de la techno. Je pense que si on va dans un plan entre une interdiction générale et ça ne gagnera pas, en fait, je pense que la société est plus complexe qu'un oui-non, en fait. On a besoin de discussions et de compromis ensemble, en fait. Et on peut y arriver, en fait, si on met les bonnes personnes pour discuter. Et je pense que si on met les gens qui sont calculés par Parcoursup, les étudiants de Parcoursup, les bénéficiaires de la CAF à la CAF, la CAF va être très vite plus loyale, plus responsable et plus attentive à ce qu'elle fait et aux effets qu'elle produit. Voilà, je pense que ce n'est pas un pour ou contre ou un oui ou non, c'est mettons les gens qui sont impactés par le calcul pour arriver à faire de meilleures régulations.
En tout cas, dans le livre, il y a plein d'analyses détaillées à travers plein d'exemples, on en a parlé. On sent bien sur la conclusion que tu proposes des solutions, que tu as une volonté de faire bouger les lignes et puis que ça avance. Je vais te citer un petit peu longuement, mais c'est ta conclusion et elle montre le positivisme un peu quand même de ce que tu y vois dans les actions à mener. Entre guillemets, donc, je cite, nous n'abattrons pas les discriminations par des pétitions en ligne, pas plus que nous ne sauverons la planète du réchauffement climatique en nettoyant nos boîtes mail. Si l'innovation numérique ne produit aucun progrès social et moral, alors nous devrons nous en défaire. Changer le numérique est encore possible, mais à l'instar de l'impératif écologique, nous n'avons pas beaucoup de temps avant qu'il devienne impossible de faire machine arrière. Si nous laissons le numérique s'enfoncer dans le cynisme et l'autoritarisme, alors il devra être abattu avec le capitalisme débridé auquel il obéit. Il y a une volonté d'action, une volonté de rassembler. Quelque chose à rajouter peut-être?
Non, vous allez bien, non?
Très bien. Hubert Guillot, merci beaucoup. Je rappelle le bouquin aux éditions La Fabrique, Les algorithmes contre la société. Merci.
Merci David.